Bonjour à vous tous. Je ne vous ai pas tous salués. J'ai été interpellé ces derniers temps par le mot « le standard ». Quel est le standard de notre vie? Qu'est-ce que c'est que le standard d'ailleurs? C'est quelque chose qui est conforme à une norme de fabrication. Quelque chose que Dieu a préparé pour nous aussi, parce qu'il a un standard de vie pour nous. Il nous a donné la vie avec des talents, des promesses, une intelligence. Et en Jésus-Christ, Dieu nous accorde la vie éternelle. Est-ce qu'on arrive à réaliser toutes les promesses, toutes les bénédictions que Dieu nous a déjà accordées et qui font partie de son standard de vie pour nous? En fait, c'est si vite oublié, surtout quand on rencontre des obstacles. Et je vous propose que nous puissions suivre le peuple d'Israël. Donc, le peuple d'Israël a vécu 400 ans en Égypte et Dieu avait prévu de le faire sortir de l'esclavage. Il avait un standard de vie extraordinaire pour son peuple. C'était d'habiter dans un bon et beau pays, un pays qui avait déjà été promis à Abraham. Ils ont quitté donc l'Égypte. Dieu a ouvert la mer des roseaux, la mer rouge, afin qu'ils puissent la traverser. C'était donc vraiment un miracle extraordinaire. Il faudrait que j'aille un petit peu. Voilà. Et là, Moïse et les Israélites chantent pour le Seigneur. Ils sont tellement enthousiasmés. Qui est comme toi parmi les dieux? Qui est brillant? Qui est comme toi, brillant de sainteté, digne de louange. Ta grandeur est terrible, tes actions extraordinaires. Tu as levé ta main droite et nos ennemis ont disparu sous la terre. Tu as libéré ton peuple, tu le conduis avec amour. Ta force le guide vers ton pays, vers le lieu où tu habites. C'est quand même génial, hein? Cet enthousiasme, cette joie, l'émerveillement. Le peuple juif, à ce moment-là, comptait 600 000 hommes. Je pense qu'on n'a pas compté les femmes, ni les enfants. Donc, il devait y avoir bien, bien du monde. Mais voilà qu'après quelques jours de marche, le peuple rencontre un problème. Les gens, ils ont soif, et l'eau est imbuvable parce qu'elle est amère. Et qu'est-ce que fait le peuple? Il murmure. Il murmure contre Moïse en disant « Mais qu'est-ce qu'on va boire ?» Et Moïse, c'était ce que le peuple aurait pu faire, mais Moïse, il crie à l'Éternel. Et l'Éternel lui indique un morceau de bois que Moïse peut jeter dans la mer, dans cette eau qui est imbuvable. Et à cet endroit, l'Éternel donna au peuple des prescriptions et des règles. C'est là qu'il le met à l'épreuve. Si tu écoutes attentivement l'Éternel ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements et si tu obéis à toutes ses prescriptions, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel ton Dieu. Je suis l'Éternel, celui qui te guérit. Voilà que peu après, le peuple quitte cet endroit et arrive au désert de Sin. Et là, il commence à avoir faim. Toute l'assemblée des Israélites, qu'est-ce qu'ils font? Ils murmurent. Ils murmurent contre Moïse et Aaron dans le désert. En fait, ils ont la mémoire courte. Hein. Ils ont chanté l'Éternel, ils ont loué, ils étaient tellement enthousiasmés après la traversée de la mer. Ils n'ont pas été touchés par la plaie, donc par les 10 plaies. Dieu les a protégés, il les a libérés, leur a permis de traverser la mer, et les voilà de nouveau qui rouspètent. J'ai bien aimé ce chant que tu as choisi. Pardon Seigneur, pardon pour tous nos murmures. Les voilà qui rouspètent et qui disent, Dieu, il aurait mieux fait de nous faire mourir en Égypte. Là-bas, eh bien, on était assis près des pots de viande, nous avions du pain en quantité. Vous nous avez menés dans ce désert pour nous faire tous mourir de faim. Ils ont encore cette mentalité d'esclave. Leur standard de vie, c'est leur estomac. En fait, on oublie vite les bénédictions que Dieu nous a accordées. Est-ce que vous vous souvenez d'une bénédiction que Dieu vous a accordée dernièrement? Peut-être à la sortie, ce sera l'occasion de partager. Puisqu'il fait beau, on pourra aller dehors, ce sera l'occasion. Je dirais juste, personnellement, avec Ariane, donc, qui ne peut plus communiquer, elle ne peut plus écrire, elle ne peut plus donner les lettres pour donner un mot, donc où avant elle pouvait prendre une lettre et après une autre. Là, plus rien du tout. Donc, c'est de la devinette. C'est très difficile, hein, la communication. Et là, vendredi, quand j'étais vers Ariane, j'ai appelé Dieu à l'aide. Je dis, Seigneur, toi, tu es le Dieu des miracles. Tu es le Dieu des miracles et tu agis encore maintenant parce que tu es Dieu. Tu ne dois pas être à mon service, mais je sais que tu es Dieu. Et là, elle a pu refaire, elle a pu marquer une phrase de 37 lettres et, qui étaient les bonnes lettres. Les bonnes lettres, là, j'ai pu reconnaître la puissance de Dieu. Et je crois que Dieu, il est saint, il est juste et on peut se réjouir. Il n'y a rien qui soit trop grand pour Dieu. En fait, on oublie vite souvent que nous avons été élus avant la fondation du monde. Ça aussi, c'est quelque chose qui nous dépasse. Être élu, choisi avant la fondation du monde. Que Dieu nous a aimés avant notre naissance. Et pourtant, il savait qui nous sommes avec nos problèmes. Et il nous a aimés le premier. Nous sommes aussi héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Dieu a donné sa vie pour pardonner, pour nous libérer, pour nous donner la vie éternelle. Je vais peut-être le dire souvent, mais je crois que c'est tellement extraordinaire que Dieu nous ait donné. Et là, lorsque nous sommes confrontés aux difficultés, nous avons tendance à oublier la promesse que Dieu nous a faite. Et qu'est-ce que c'est cette promesse? C'est « Ne crains rien, car je suis avec toi ». Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Le temps a passé, et un jour, l'Éternel s'adresse à Moïse. Ça fait un peu plus d'une année après la traversée de la mer, où Dieu dit à Moïse, « Envoie des hommes explorer le pays du Canaan que je donne aux Israélites. » Tu enverras un prince de chaque tribu de leurs ancêtres. Moïse alors obéit à l'Éternel et il envoie ses hommes au désert de Paran, d'après l'ordre de l'Éternel. Ces 12 princes partis pour explorer le pays de Canaan reviennent 40 jours plus tard. C'est étonnant, toujours 40. Hein. Ils vont auprès de Moïse et Aaron. Ils ont rapporté une grappe de raisins tellement grandes et pesantes qu'ils ont dû la porter à deux au moyen d'une perche. Il y avait aussi des grenades, des figues, enfin, plein de fruits extraordinaires. Et alors, bien entendu, qu'ils vont donner le rapport à Moïse. Et là, à Moïse, il dit, nous sommes allés dans le pays que tu nous as envoyé. C'est un pays magnifique où coule le lait et le miel. Et en voici les fruits. Mais, voilà, c'est ce mot qui est toujours embêtant. Parce que le reste, ça ne compte pas. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous avons vu des géants. Pardon, Seigneur, pour ce mais. Que nous disons peut-être assez vite aussi. Hein. Les enfants d'Israël se mettent à murmurer de nouveau contre Moïse. Mais Caleb était avec Josué. Ce Caleb a fait taire le peuple et a dit « Montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. » Mais les 10 hommes qui les ont accompagnés, ils élèvent la voix. Et je résume, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple car il est plus fort que nous. Et ils dénigrèrent devant les Israélites le pays qu'ils avaient exploré 10 ans. Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore les habitants. C'est étonnant, c'est pas la même chose que ce qu'ils avaient dit à Moïse. Hein. Tous ceux qui nous ont Tous ceux qui... Ah non, excusez-moi, tous ceux que nous y avons vus sont des hommes de haute taille. Nous y avons vu des géants. À nos yeux, nous étions comme des sauterelles. Ah là là. Josué et Caleb ont adopté le standard de Dieu. C'est-à-dire que si Dieu a parlé à Moïse et qu'il leur a dit qu'ils allaient rentrer dans un beau pays, c'est qu'il va le faire. Il va le faire. Même si, avec ce qu'on a vu, ça paraît terrible, mais on va y arriver, parce que Dieu est avec nous. Ils avaient cette assurance que si Dieu est avec eux, ben, pourquoi douter ? Josué et Caleb, ils ont vu le pays avec toutes les bénédictions et avec toutes les difficultés, mais avec la foi que Dieu allait être avec eux, parce qu'il fallait absolument que Dieu soit avec eux. Qu'ils soient avec eux pour conquérir ce pays, malgré tous les géants et ces villes fortifiées. Ils avaient vu ces géants, ils avaient vu ces murailles, ils avaient vu la même chose. Mais Dieu passait avant, et ils avaient mis leur confiance en l'Éternel. Tous les Israélites murmurent contre Moïse et Aaron. De nouveau, c'est ce principe du murmure, hein, en disant, je résume aussi, « Si seulement nous étions morts en Égypte ou dans ce désert, mais pourquoi l'Éternel nous fait-il aller dans ce pays où nous tomberons par l'épée ? » Quelle espérance ils ont, hein ? Où nos femmes et nos petits-enfants deviendront une proie. Retournons en Égypte. Et ils se préparèrent à nommer un chef et retourner en Égypte. Et non seulement cela, mais toute l'assemblée parlait de les lapider. C'est à ce moment que l'Éternel prend place. Et la gloire de l'Éternel apparaît sur la tente de la rencontre devant tous les Israélites. Et l'Éternel dit à Moïse, « Jusqu'à quand ce peuple me méprisera-t-il ? Jusqu'à quand ne croira-t-il pas en moi, malgré tous les signes que j'ai accomplis au milieu d'eux ? Tous les hommes de 20 ans et au-dessus ne verront pas le pays promis, le pays d'Israël. » Vous avez mis 40 jours à explorer le pays. Eh bien, vous supporterez donc la conséquence de vos fautes pendant 40 ans, une année par jour. À l'opposé de Josué et de Caleb, ces hommes n'ont pas cru ce que Dieu leur avait dit. Les Israélites étaient à l'écoute de leur propre analyse, de leur raisonnement. Je crois que des fois, on devrait apprendre aussi à être conduit par l'Esprit Saint. Ils étaient conduits par leurs propres pensées. Ils ne trouvaient en eux-mêmes aucune force, aucune assurance pour affronter un tel défi, pour entreprendre une telle conquête. Et voilà que 40 ans plus tard, l'ancienne génération est décédée. Et là, Dieu parle à Josué. Mon serviteur Moïse est mort. « Maintenant, lève-toi, passe le Jourdain avec tout le peuple pour entrer dans le pays que je donne aux Israélites. Tout lieu que foulera ta plante, la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Votre territoire ira depuis le désert au sud jusqu'aux montagnes du Liban au nord. Il s'étendra de l'Euphrate, le grand fleuve, à l'est, jusqu'à la mer Méditerranée à l'ouest. Personne ne pourra te résister. » Tant que tu vivras, je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai pas et je ne t'abandonnerai pas. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leurs ancêtres de leur donner. Josué et Caleb ne sont pas morts comme les autres membres du peuple. Et pourtant, je ne sais pas quel âge ils avaient à ce moment-là, mais ils devaient avoir plus de 60 ans, en tout cas, ces deux hommes. Ils avaient ce standard de Dieu. Ils avaient une confiance aveugle en Dieu. Cela ne signifie pas qu'ils n'avaient pas peur. D'ailleurs, si on lit le texte plus loin, il répète encore trois fois Dieu à Josué, fortifie-toi, fortifie-toi, fortifie-toi. N'aie pas peur. Donc ça veut dire que Josué, il avait peur. Ça ne veut pas dire que parce qu'on a peur, qu'on ne croit pas en Dieu. mais Dieu était là pour les fortifier. Et le peuple obéit à Josué. Cette nouvelle génération ne voit plus le passé, mais le présent et le futur avec Dieu. Le peuple traverse le Jourdain à sec, à pied sec. Dieu ouvre le chemin. Il leur donne une stratégie particulière pour vaincre Jéricho. Et cette stratégie, elle n'est vraiment pas conforme à nos stratégies militaires actuelles, en tout cas. Et parce qu'ils ont obéi à l'Éternel, eh bien, les murs de Jéricho sont tombés. Et c'est avec l'aide de Dieu qu'ils vont petit à petit conquérir le pays de Canaan. Mais j'aimerais quand même revenir un peu en arrière par rapport à cette vieille génération, celle qui est morte au désert à cause de leur désobéissance. Cette vieille génération a raté l'entrée dans le pays promis à cause de leurs paroles. Et nous étions, à nos yeux, comme des sauterelles, comme si Dieu, en fait, il avait la puissance aussi d'une sauterelle, en fait, je ne sais pas, c'est bizarre. La raison pour laquelle les Israélites étaient si terrifiés de combattre, ce n'était pas parce qu'il y avait des géants, ni qu'il y avait des grandes murailles, mais c'était que les Israélites se voyaient eux-mêmes comme des sauterelles. Et ça, c'est terrible, parce que si on se voit comme ça, comme des nuls, comme des gens pas capables, eh bien, c'est une chose. Mais si l'Éternel est avec moi, qui sera contre moi? Et là, je pose la question, quelle est la valeur que je me donne? Si je me vois comme un chrétien faible et sans puissance, alors le diable, il va m'approuver, en fait. Il va surenchérir en me faisant douter et renoncer à m'engager. Nous avons trop tendance à écouter le menteur, le diable, plutôt que Jésus, qui est la vérité. On peut passer à côté de beaucoup de choses, tout simplement parce qu'on ne fait pas confiance à Dieu. Dieu est vraiment bon. Il est vraiment fort. Il est vraiment tout-puissant. Et on n'a pas vu encore tout ce qu'il avait prévu pour nous. Je crois que si nous nous ouvrons à ce que l'Éternel a prévu, nous allons le voir aussi réalisé. Quand je commence à me voir comme Dieu me voit, comme un fils ou une fille de Dieu, tout-puissant, équipé de la puissance de Dieu lui-même, le Saint-Esprit, les choses changent. Oui, ce n'est pas notre tête qui devrait diriger, ça devrait être aussi notre esprit. Parce que le Saint-Esprit est en nous et la parole de Dieu dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Il y a tellement de vérités auxquelles nous croyons, mais que nous ne proclamons pas à haute voix. C'est important de pouvoir le proclamer à haute voix, ces vérités. Et je vous propose que, petit à petit, je vais lire « Je suis un enfant de Dieu ». Est-ce que vous arrivez à le répéter? Si vous êtes sûr d'être un enfant de Dieu. Alors je vous laisse répéter.
Je suis un enfant de Dieu.
J'ai été élu avant la fondation du monde. Avant la fondation du monde. Hein. Je suis une créature merveilleuse. Je suis héritier de Dieu et co-héritier de Christ. Je suis ressuscité avec Christ, assis avec lui dans les lieux célestes. Et je suis celle et lumière du monde. Est-ce que, justement, quand on passe par des moments difficiles, qu'on doute de nous-mêmes, de nos capacités, reprenons ça. Parce que ce n'est pas nous qui essayons de dire cela. C'est ce que Dieu nous dit. C'est ce que Dieu nous dit. Et si Dieu l'a dit, eh bien, c'est que c'est vrai. Et je dirais qu'il n'y a rien qui manque au ciel. Il veut nous le donner parce qu'il est bon, il est généreux. Juste avant son ascension, Jésus a donné une promesse extraordinaire qui est le standard, ouais, un standard supplémentaire, on peut dire, de Jésus pour ses disciples et ce standard qui est aussi valable pour nous. Où il est dit, vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Vouloir cette puissance, c'est le choix que Dieu nous propose. Si j'accepte ce standard que Jésus m'offre, je vais voir des miracles, je vais voir des délivrances, je vais voir des transformations, je vais pouvoir parler en langue, je vais pouvoir prophétiser, bien sûr guérir des malades. Voilà. Je crois que là-dedans, Dieu a des promesses extraordinaires qui nous dépassent parce que souvent on s'est vu comme trop petit. Ça va bien pour des Moïse, ça va bien pour Abraham, ça va bien pour Daniel, ça va bien pour différents personnages de la Bible. Mais moi, je ne suis pas à ce niveau. Est-ce que vous croyez que cette puissance que lui veut nous donner, elle est aussi pour agir parmi nous? Il y a un verset aussi qui m'a parlé. C'est que le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Et ils s'en allèrent prêcher partout. Et le Seigneur travaillait avec eux. Il confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Et là, dans Actes 2, 47, chaque jour, le Seigneur ajoutait à sa communauté ceux qui étaient sauvés. Moi, je veux prophétiser aussi sur cette Église. Seigneur, que chaque jour, tu puisses ajouter à notre communauté ceux qui sont sauvés. Parce que je crois que ça fait partie du plan de Dieu pour nous. Et que toi, Seigneur, je le crois aussi comme une prophétie, que toi, Seigneur, tu travailles avec nous, tu vas travailler avec nous, tu vas confirmer ta parole par des miracles qui vont accompagner ta parole. Amen.
Amen.
Je veux prier. Seigneur mon Dieu, quand je pense à tout ce qui se passe, quand je pense comment tu as conduit ce peuple d'Israël, ces milliers de personnes, avec tous les animaux, tu leur as donné à manger, tu leur as donné à boire, c'était surnaturel. C'était vraiment tout à fait surnaturel. Eh bien, nous voulons nous ouvrir aussi à ce standard de ce surnaturel. Nous voulons apprendre à vivre avec tout le standard que tu as pour chacun de nous. Nous voulons vivre en plaçant notre foi dans tes promesses, Seigneur, que nous puissions être enflammés pour toi, remplis de toi, Saint-Esprit, et de ta grâce. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen.